8h31, bon, dans ce qu'on appelle maintenant l'affaire SNC-Lavalin, M. Trudeau avait dit très clairement, il n'y a pas de problème, la ministre est toujours membre du cabinet, ce qui prouve qu'elle est confortable et qu'elle est solidaire avec le gouvernement, sauf que quelques heures plus tard, elle a démissionné.
Sa présence au cabinet parle d'elle-même, c'est ce que M. Trudeau a dit hier. Et Mme Judy Wilson-Raybould, son ancienne ministre de la Justice, ancienne procureure générale du Canada, ni une ni deux a démissionné du cabinet. Écoute, suspense à Ottawa. C'est rare qu'on a du suspense à Ottawa. Et là, on en a. C'est un peu comme un thriller. Et la question qui va toucher la réélection de Justin Trudeau, messieurs, c'est qu'est-ce qu'elle va dire si elle peut parler? Parce que dans sa lettre de démission, elle explique « Il y a beaucoup de Canadiens qui voudraient que je parle et... By the way, j'ai retenu les services d'un ancien juge de la Cour suprême pour me conseiller sur ce que je peux dire. » Aïe aïe. Si elle vient dire, si elle vient décrire des pressions trop fortes du cabinet de M. Trudeau sur sa personne, sur sa fonction, pour forcer un deal avec SNC-Lavalin, les répercussions, ça va être comme une bombe à fragmentation qui va lancer des éclats pas mal loin dans le temps.
Oui. C'est bien clair que la question, c'est bien clair que si elle a démissionné, c'est parce que elle entend jusqu'à un certain point accuser, à tort ou à raison, là, peut-être qu'elle exagérera, peut-être qu'elle aura raison, le cabinet du premier ministre ou peut-être même le premier ministre lui-même d'être intervenu. On sait que c'est assez grave parce que là, il y a une barrière infranchissable en principe entre le politique et le judiciaire. Ajoutons à cela qu'il va y avoir le commissaire à l'éthique qui devrait faire rapport, Mario Dion, et qui a possiblement une comparution des principales personnes là-dedans dans un comité parlementaire. Autrement dit, cette question-là, qui était une question, et on va y revenir, mais est devenue une question éminemment politique, et là, tous les partis d'opposition voient l'occasion d'un halali, c'est-à-dire fonçons sur la paroi qui semble blessé et qui saigne un peu, voir si on ne peut pas agrandir cette blessure-là, puis faire se repaître des électeurs qui seraient dégoûtés du comportement du Parti libéral. Derrière tout ça, cependant, on oublie que l'objet fondamental, c'est un accord pour éviter un accord de réparation. Puis je regardais ça, puis je t'écoutais hier, tu disais « too big to fail », puis c'est vrai. Ces compagnies-là sont devenues tellement grosses qu'on peut difficilement les retirer de l'économie sans faire beaucoup de tort à des travailleurs et tout ça. Et c'est vrai ici, puis c'est vrai dans d'autres pays. Et ce sont les États-Unis et la Grande-Bretagne qui ont créé récemment, il y a quelques années, cet accord de réparation. Au Canada, il faut se souvenir que l'accord de réparation, c'est un système qui vient d'être mis en place en septembre 2018. Donc, faut pas être innocent, c'est clair que c'est les lobbyistes qui ont insisté auprès du gouvernement pour qu'il crée cet accord de réparation dont il devait pouvoir profiter. Je parle de SNC-Lavalin. Et là, ça pose toute la question de la moralité du système dans lequel on est. Parce que autant tout le monde dit, et j'en suis, je l'ai dit hier, puis je pense que c'est vrai, on souhaite pas que SNC disparaisse, que les emplois de gens qui sont pas responsables de ça soient détruits. En même temps, faut être bien conscient qu'on est à l'intérieur d'un système qu'on a laissé se développer de néolibéralisme puis de libéralisation du commerce qui a créé des monstres. Et là, actuellement, ce qu'on dit, c'est comment on arrive à vivre avec un monstre économique qu'on a laissé se créer, qui est en même temps une fierté. C'est un monstre dont on est fier.
Mais tu sais, quand tu
dis un paradoxe.
Que ça pourrait avoir des effets dans l'économie, il y a les emplois, mais bon, oublions pas que la Caisse de dépôt a un gros morceau de SNC-Lavalin. Oui. SNC-Lavalin est censé être le maître d'œuvre de quoi? Du REM, qui est financé par la Caisse de dépôt. Donc, tout ça, tu vois comment tout est imbriqué. Et c'est là que, dans la réflexion politique, on se dit, hey, on ne peut pas laisser aller Lavalin. On ne peut pas faire en sorte que Lavalin n'aura plus, SNC-Lavalin n'aura plus de contrats publics au Canada, fédéraux.
Et provinciaux.
Mm-hmm. Si SNC-Lavalin est condamné au criminel, je comprends ça. Mais je veux juste qu'on soit conscient que c'est ce genre d'immunité-là qui fait que des compagnies se sentent tout permis. Mais je veux revenir à Judy Wilson-Raybould. Écoute, Il y a présentement, là, dans l'opposition, paradoxalement, ailleurs dans la population, chez les peuples autochtones, il y a une sorte de poussée pour la présenter en héroïne. Moi, ce que je cherche, c'est les faits. Parce que, juste rappeler une affaire, il est possible qu'elle ait subi des pressions indues. Et ça va être intéressant de voir si elle peut parler. C'est pas évident si, c'est pas évident qu'elle pourra parler. Sauf que, si elle a eu des pressions qui étaient si épouvantables, Mme Wilson-Raybould, comment ça se fait qu'elle n'a pas démissionné? Parce que je rappelle qu'elle a été rétrogradée. Hein? On l'a tassée à la faveur d'un remaniement ministériel. Moi, je dis pas que le cabinet de M. Trudeau a mal agi ou bien agi. Je le sais pas. Il manque des faits et les faits, on va les avoir quand elle va parler. Mais si tu subis des pressions si épouvantables que tu sens qu'on est en train de te faire piétiner la règle de droit, pourquoi t'as pas démissionné? Je me pose cette question.
On pourrait dire à l'inverse, peut-être que sa démission ou son changement de ministère a été provoqué par une résistance qu'elle n'a pas rendue publique. Et là, on entre vraiment dans le champ des opinions et de ce qu'on va pouvoir savoir et pas savoir. Parce qu'on parle de transparence, mais c'est clair qu'elle-même est liée par par le secret professionnel. Oui. Donc, elle ne pourra pas tout dire. Il va y avoir des zones d'ombre. De la même façon, on s'attend à ce que tout le monde soit le plus transparent possible, mais il n'est pas inimaginable qu'on dise, ben voilà, c'est un tel, qu'on donne une brebis, qu'on sacrifie une brebis du cabinet du premier ministre pour expier les fautes, s'il y a eu des fautes qui ont été commises. Le vrai problème se pose donc, c'est que quand tu laisses se développer des monstres économiques et que tu envoies le signal double à l'ensemble des compagnies, c'est ayez un comportement moral ou si vous n'avez pas un comportement moral, arrangez-vous donc pour que ça se sache surtout pas. Donc ça, c'est la vision économique avec tout le monde, que tout le monde est obligé d'entériner parce qu'on est dans cette économie-là. Mmh. Mais on voit à quel point une fracture économique ou un développement économique cause des problèmes majeurs au niveau de la démocratie puis du respect de l'impartialité qui devrait exister ou de la barrière qui doit exister entre le judiciaire et le politique. Et c'est ça qui est inquiétant et c'est pas juste ici que ça se passe sous d'autres formes dans bien d'autres pays.
Ben, dans bien d'autres pays, l'exemple le plus spectaculaire, c'est la crise financière de 2008. Wall Street, des grandes firmes de Wall Street, firmes d'assurance, firmes d'investissement, des banques, se sont mises dans le pétrin. Et là, c'était par leur faute et leur très grande faute. Mais là, l'administration américaine a bien vu que si on laissait les choses aller, si on laissait le proverbial marché faire son œuvre, ben c'est probablement une grande partie de l'économie américaine qui allait tomber dans l'égout et aurait entraîné une partie de l'économie mondiale. On a décidé de sauver des firmes. Ben, ça aussi, ça envoie un message d'immunité. Je comprends que tu peux pas... T'es un élu, là. Puis tu penses pas juste à ta réélection, tu penses au bien-être de ta société. Sur le coup, tu peux pas dire, ouais, on va laisser tomber ces firmes-là. On va pas les aider parce que c'est ton économie qui va y passer. Mais ça envoie un message d'immunité qui est, à mon sens, contre-productif.
Si tu mets des conditions, l'exemple qui est donné, je pense, dans le Devoir ce matin, Rolls-Royce, où on dit, écoute, là, une compagnie qui a fait de la corruption puis de collusion, tout ce que tu veux, puis là, tu arrives avec des amendes totalisant plus d'un milliard avec une série de conditions, incluant, si vous retombez encore, là, on vous poursuit. Il y a quand même, c'est pas dénué d'attache, là.
Bien, c'est pas dénué d'attache, mais Paul, si je peux me permettre, ça envoie le signal aux autres que, écoute, si on fait des crosses, on peut toujours négocier un accord comme ça. Ça va faire mal. Ça va être comme te faire enlever un membre, mais tu vas pas mourir.
Mais en même temps, moi, je suis assez d'accord avec l'idée qu'il n'y a rien qui dit que dans ces accords-là, on ne peut pas être beaucoup plus exigeant que ce qu'on entend. Là, on dit une amende de quelques 200, 300 millions. Oui, ça fait mal. Le conseil d'administration a été changé. C'est bien beau. Puis là, on a adopté des codes de conduite. Mais moi, je pense qu'il y aurait moyen d'aller beaucoup plus loin. On pourrait imposer, par exemple, il était question, tu sais, de comité de vigilance, là. On pourrait y dire, nous autres, on va instaurer un comité de vigilance qui serait indépendant, où il y aurait des membres dont l'indépendance est totale par rapport à une corporation comme celle-là, comme Lavalin, et qui aurait des pouvoirs d'intervention au niveau de la façon dont les choses fonctionnent. Je sais que c'est pas une pratique habituelle, mais dans des cas exceptionnels comme ça, je crois que la seule façon de sauver la face puis de garder la crédibilité de la classe politique, politique, ce serait de dire voici quelles sont les exigences, parce que ces exigences-là, c'est les exigences du public. Puis si on le fait pas, on voit ce qui arrive aux États-Unis puis dans bien d'autres pays. Il y a un cynisme tel qui s'installe face aux politiques puis à toute la classe qui semble pouvoir passer au-dessus des lois. Et le résultat, c'est qu'on va élire des gens qui viennent de la droite, comme Trump puis comme plein d'autres partis un peu partout. Ça, c'est le résultat du cancer qu'on a laissé se développer en ne contrôlant pas le développement de la libéralisation du commerce puis des grandes entreprises.
On s'arrête là-dessus. Au retour, un sujet controversé, s'il en est un, la récréation. 20 minutes le matin, 20 minutes l'après-midi. Allons-y avec le résumé. Monsieur Brière.